13h12, minutes, bienvenue dans Trudeau Landry 25226 pour nous joindre. Et également, bien important, 418-670-9330. Ça vous tente de jaser des choses à raconter. Peut-être que, sait-on jamais, on va peut-être vous mettre en onde, mais Alex prend vos appels. D'ailleurs, en 30 secondes, Alex, tu as eu beaucoup d'appels d'auditeurs pendant l'entrevue avec M. Duclos.
Oui, ça appelle pas mal, en fait, depuis qu'on a commencé cette série d'entrevues avec Mais aujourd'hui, c'était particulièrement intense et je te dirais que parce que c'était pas tout le temps poli.
Les gens sont fâchés.
Ce que j'ai entendu. Les gens sont fâchés. Ouais. L'élément qu'on m'a ramené, là, 3-4 appels, c'était vraiment l'aspect des dépenses publiques. Et quand M. Duclos disait que le gouvernement fédéral n'était pas un guichet automatique ou quelque chose comme ça.
Oui.
Les gens me l'ont rappelé que le guichet automatique, pourtant, était pas mal déverrouillé depuis le début de la pandémie. Joe l'a posé comme question, mais je vous confirme que les auditeurs ont un peu accroché sur cette phrase.
Regarde, il est pas là pour se défendre, mais j'ai eu l'impression pendant toute l'entrevue qu'on avait vraiment Jean-Yves Duclos, le candidat, tu sais, dans le comté de Québec, qui est un comté assez favorisé, là. Beaucoup de gens, il y a des retraités, il y a des fonctionnaires retraités, des gens qui travaillent pour l'État, des gens qui travaillent à l'université, dans les hôpitaux. J'ai l'impression qu'il parlait beaucoup aux gens du comté de Québec. C'est un peu normal, il veut représenter le comté de Québec.
C'est ça qui est un peu ingrat, en ce sens que nous, on le voit davantage comme étant le ministre qui était responsable. Oui, puis le ministre responsable de la région de Québec.
Ouais.
Donc, quand il est plutôt timide et hésitant sur le troisième lien, ben c'est sûr qu'il parle aux gens de son comté. Il veut d'abord avant tout se faire élire. Mais dans Québec, en périphérie de Québec, il y a des gens qui le veulent, le troisième lien. Bref, évidemment, à chaque fois qu'on reçoit des politiciens, il y a des commentaires qui sont parfois positifs, mais souvent négatifs. Les gens sont critiques envers les politiciens. On se contente pas de mentir quand t'es le candidat du parti qui gouvernait. Donc, c'est sûr que faut que tu traînes le bilan aussi. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient insatisfaits. Bref, moi, j'aime bien recevoir en entrevue M. Duclos. On reçoit une personne de tous les partis cette semaine. Donc, à vous de faire votre choix par la suite.
Et le conservateur Gérard Deltel, qui va être notre invité demain midi à peu près à la même heure. Donc, soyez là au FM 93. On va rester un peu sur la campagne. Moi, il y a un point que j'amène souvent en onde depuis le début de la campagne. Puis, malheureusement, je trouve que ça continue de paraître, même si on est dans le dernier droit de la campagne. C'est l'espèce de déconnexion des politiciens par rapport à ce que j'entends sur le terrain. Les gens actuellement, je pense, sont préoccupés par l'économie, sont préoccupés par le coût de la vie, par l'inflation, par leur pouvoir d'achat. Et j'ai pas l'impression que ça a été le sujet numéro un de la campagne. Ça a bien l'air qu'on n'est pas les seuls à trouver qu'il y a une certaine déconnexion. Puis on va vérifier ça avec des détails intéressants sur la réalité économique. Est-ce qu'il y a déconnexion entre le discours politique des candidats et la réalité économique? On va en parler avec la présidente directrice générale de l'Institut du Québec, Mme Miomsi. Mme Miomsi, bonjour!
Bonjour!
De façon générale, vous trouvez-vous que les politiciens sont un peu déconnectés là, dans les débats, dans leurs discours? Quand on parle d'économie, avez-vous l'impression qu'ils sont groundés sur la réalité ou ils sont un peu des nuages?
Ben, écoutez, on vient de faire une analyse des enjeux économiques, mais plus spécifiques des enjeux de main-d'œuvre, parce qu'en ce moment, un grand thème économique, ça demeure les pénuries de main-d'œuvre. Puis, sur ce point-là, on a vraiment passé en revue tout ce que les partis promettent. Et puis, on s'est vraiment rendu compte, là, puis on a attendu jusqu'à la fin, jusqu'au débat des chefs et tout, avant de sortir notre analyse. On voulait leur donner une chance de se rattraper, mais il y a une déconnexion qui est importante. On commence la campagne électorale en nous parlant de création d'1 million d'emplois chez les conservateurs. On parle d'1 million d'emplois chez les libéraux. C'est pas le même million parce qu'eux parlent de rattrapage, mais quand même, le SPD aussi. Puis là, on se dit, mais il y a 816 000 postes vacants au Canada. Il y en a plus que 200 000 au Québec, partout à travers, je veux dire, dans toutes les régions, dans tous les secteurs. C'est quand même assez généralisé pour tous les types de compétences, de professions. Et là, on entend que les entreprises sont pas capables de croître, refuse des contrats, ferme aussi dans les secteurs des services parce qu'il manque de main-d'œuvre, puis là, on vient nous promettre des emplois. Donc, il y a vraiment un effort de moderniser le discours pour qu'il s'adapte aux enjeux actuels. C'est quoi les enjeux actuels? Ben, c'est une population qui vieillit, c'est un virage numérique qui s'accélère, puis c'est une transition écologique qui va se faire, qui va changer les industries, le poids des différentes industries. Mais c'est ça qu'il faut qu'on parle, là. Il faut parler de transformation d'emplois, pas de création d'emplois. Sont pas là du du tout.
Ben, on parle de déconnexion, mais dans les faits, au lieu de proposer de régler le problème, c'est-à-dire de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, ils proposent de l'aggraver, c'est-à-dire de créer un million de postes, mais qu'on ne soit pas capable de combler.
Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste continué à dire ce qu'ils disent depuis 20, 30, 40 ans.
C'est ça.
Au lieu de se dire ce qu'ils disent, ben, y a de l'appétit pour ça. Les gens, économie, c'est égale création d'emplois. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas regardé les données démographiques. Il y a plus de baby boomers qui partent du marché du travail que de jeunes qui rentrent. Fait que 80% des postes à combler là au cours des 10 prochaines années, par exemple au Québec, ben c'est juste du remplacement. Fait que ça sert à rien de parler de création d'emplois en ce moment parce qu'on n'est pas, on sera pas capable d'en générer tant que ça de toute façon. Ce qu'il faut, c'est trouver une façon d'aider les gens à trouver des bons emplois dans ce qui est déjà offert, puis d'aider les gens à suivre la transformation, puis les entreprises à suivre ces transformations-là. Fait que c'est vraiment la numérisation, mais aussi les travailleurs. Il faut qu'ils soient capables de les opérer, les machines, de travailler avec les nouveaux systèmes. C'est ça qu'il faut viser. Puis il faut, par exemple, on parle d'assurance-emploi. Bon, ben toutes les parties disent qu'il faut que plus de monde soit éligible. Les gig workers, là, les travailleurs de la nouvelle économie qu'on appelle, prolonger la durée, etc. Mais la caisse, elle vient d'être déficitaire de 20 milliards de dollars, l'assurance-emploi. Mm-hmm. C'est quand même bien les travailleurs et les employeurs qui la financent. Il faut qu'on parle de ça aussi. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut parler de mesures de soutien aux revenus actifs. Ça veut dire aider les gens à se former plutôt que passif, puis juste de soutenir le revenu sans condition.
Vous avez évoqué il y a quelques secondes, il y a quelques instants, la formation de la main-d'œuvre, vous avez parlé de numérisation et tout ça. C'est quoi les domaines précis, là, les domaines dans lesquels on devrait davantage former du gens, puis dans lesquels on devrait investir dans la formation de la main-d'œuvre? J'aimerais ça vous entendre élaborer là-dessus, c'est intéressant ça.
Bien, nous, la façon qu'on regarde ça, c'est il y a comme deux aspects. Il y a l'aspect service essentiel, service public, santé, éducation. Puis après, il y a la partie développement économique, puis où vont être les grands besoins de la société à l'avenir pour la croissance économique. Fait que pour les services publics, ça fait longtemps qu'on le dit. C'est bien sûr qu'on va manquer d'infirmières puis de préposés aux bénéficiaires. Ils partent à la retraite. On le sait, on le voit dans les données. Il faut commencer en amont à penser aux cohortes qu'on va former, à la rétention, essayer de garder ceux qui sont là plus longtemps puis pas qu'il y ait des incitatifs fiscaux. Les enseignants, c'est facile à prévoir. On sait il y a combien d'élèves sur les bancs d'école. On sait il y en a combien qui partent à la retraite. C'est tout conventionné. Pourquoi on n'a pas, pourquoi il manque d'enseignants dans les classes? Là, c'est notre avenir collectif, tu sais. Et puis là, avec toute la pression que la pandémie a mis sur ces deux réseaux-là, ben c'est sûr que les besoins vont être pires puis qu'il va y avoir des enjeux de livraison de services dans plusieurs régions. C'est évident, là, c'est écrit dans le ciel. Là, on s'en reparlera dans un an, deux ans, ça s'en vient. Puis pour le secteur privé, ben tout ce qui est informatisation, fait que c'est pas tant de former tout le monde en TI, mais c'est de mettre plus de TI un peu partout dans l'économie, finance, assurance, tous les secteurs, commerce de détail, commerce de gros, deviennent plus numériques. Il y a la construction. On a 100 milliards de dépenses en infrastructure prévues au cours des 10 prochaines années. Ben, ça va prendre du monde pour travailler là-dedans. Puis il y a déjà de l'inflation sur le prix des matières premières. Si on veut pas qu'il y ait une inflation incroyable sur le prix de la main-d'œuvre en plus, ben, il faut aussi former du monde. Les gens investissent, ont fait des travaux pendant la pandémie. L'agroalimentaire, si on veut plus d'autonomie, on parle d'achat local, mais on manque déjà de monde. Il y en a tellement, honnêtement, c'est comme un peu partout, mais moi, je prioriserais ceux-là parce qu'ils vont influencer les autres.
Okay. C'est une problématique qui est pan-canadienne, mais est-ce que je me trompe ou on a l'impression que c'est pire au Québec? Et si oui, pourquoi?
Oui, c'est pan-canadien, c'est pire au Québec et en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est encore pire qu'au Québec quand on regarde les données de chômage, d'emploi puis de postes vacants. Et ben au Québec, ça s'explique beaucoup par la rapidité du vieillissement de la population. Dans le fond, la population vieillit plus vite au Québec, donc c'est pire hors de Montréal qu'à Montréal, parce que 80% de l'immigration, 75-80% est à Montréal, fait que la population vieillit moins vite. Elle est quand même vieillissante, mais moins vite qu'en dehors de Montréal. Et deuxièmement, la croissance économique des trois dernières années avant la pandémie a été plus forte que ce qu'on a vu au cours de la décennie précédente. Donc, on était à 2,5% de croissance. Et quand on combine ces deux facteurs-là, ça a mis une grosse pression sur la demande de travailleurs, alors que l'offre de travailleurs, donc les travailleurs disponibles, étaient en train de diminuer.
Miam, si je veux pas vous faire faire de politique, et je vous promets de pas interpréter votre réponse comme une incitation à voter pour un parti ou un autre, mais Je vous pose quand même la question, est-ce qu'il y en a un des chefs qui a l'air, parmi ceux qui sont là, là qui a l'air à mieux saisir un peu et qui a l'air à avoir une meilleure politique, une meilleure compréhension de ces enjeux-là, ou ils sont tous pareils, sont tous un peu déconnectés?
Non, ils sont pas tous pareils. Ils sont tous déconnectés, mais dans leur déconnexion, ceux qui comprennent le mieux les enjeux, ouais. C'est clairement le Parti libéral puis le Bloc.
Ah,
ils
oui?
reconnaissent qu'il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Oui, ils bonifient quand même l'allocation pour les travailleurs. Ils en parlent. Ils ont vraiment fait une page sur les pénuries, une ou deux pages sur les pénuries de main-d'œuvre. Ils parlent aussi il y a une mesure pour garder les travailleurs de 65 ans et plus en emploi. Dans le fond, c'est une mesure du Québec qui a fait. Ils ont vraiment fait un copier-coller au fédéral, mais ça vient doubler le montant auquel les travailleurs auront droit de 65 ans et plus. Ça, c'est les libéraux. C'est une bonne mesure. Le Bloc, il comprend les enjeux, mais il fait pas vraiment de propositions concrètes. Si on parle de productivité, on parle de numérique, de régionalisation, de l'immigration, tout ça, mais ça, on le sait déjà, mais on fait quoi pour que ça arrive, ça, on le sait pas plus. Fait que je dirais les libéraux le plus, après, c'est le Bloc, sauf que c'est pas vraiment un changement de l'approche. On promet quand même des emplois et tout, puis on lit pas l'aide aux entreprises avec des conditions sur la formation des travailleurs. On fait pas le virage qu'il faut. C'est des mesures plus à la marge, c'est qu'on a rajouté, qu'on a greffé autour du reste d'une plateforme qui aurait pu être la même il y a 10 ans. Là.
On est en retard de combien d'années? Mia, là-dessus. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en politique active avec les jeunes libéraux, on avait fait un congrès qui portait sur le défi démographique parce qu'on savait que le vieillissement de la population s'en venait et tout ça. Donc là, je comprends que la pandémie a pu agir comme un accélérateur, mais dans le fond, fait combien d'années qu'on aurait dû commencer à agir, à voir ça dans le collimateur?
Ben, à la défense des politiciens puis des fonctionnaires, c'est pas qu'il y a rien qui a été fait. Tu le voyais venir, il en parlait, je suis retombée en faisant cette note-là sur un rapport de la commission de Merz sur le marché du travail de il y a 10 ans. Il y avait déjà les bonnes pistes de solutions là-dedans. C'est juste que ça a été implanté de façon beaucoup trop timide. C'était vraiment des mesurettes là qu'on faisait d'année en année. Et donc, on savait quoi faire, les gens savaient quoi faire, mais ça a été fait de façon très timide. Et là, je pense qu'on a vraiment, ça fait 3-4 ans qu'on est vraiment en retard, dans le sens que ce qu'on fait de pas bien au gouvernement, puis qui m'inquiète profondément, c'est qu'on planifie pas, on calcule pas, on fait pas de prévision sur 5 à 10 ans. C'est quoi les besoins de ressources? Combien on en a? Combien ils vont en manquer? Puis qu'est-ce qu'on fait pour les combler? Je vous mets au défi de trouver un fonctionnaire qui est capable de répondre à cette question-là, un politicien. Il manque combien de personnes, combien d'infirmières sur 5 prochaines années, puis combien d'enseignants? Moi, j'ai fait des demandes d'information, accès à l'information partout. Je n'ai rien eu.
Miam, si, merci beaucoup. Ça a été fort intéressant, comme à l'habitude.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Miam, si, donc, qui est présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Donc, je pense que c'est assez clair. Il y a un bon niveau de déconnexion des politiciens par rapport à la réalité de la main-d'œuvre, entre autres ici au Canada et au Québec. Parlant de main-d'œuvre, je sais qu'il y a eu quelques reportages, peut-être dans les journaux ce matin. C'est. On est rendu là, hein? Un robot dans un restaurant qui amène et qui enlève les assiettes des tables et qui remplace, si vous voulez, des membres du personnel. On est rendu là. Tu sais, dans les années 80, des fois, on nous montrait ça allait être quoi le futur. On nous disait que, par exemple, on allait peut-être voir la personne avec qui on parle au téléphone. Puis là, on nous mettait un dessin d'un téléphone avec un écran. On nous disait aussi qu'on allait peut-être faire notre épicerie avec notre téléphone à la maison. On a dit, oh, ouais! Puis on nous disait aussi, peut-être des robots dans les restaurants. Bon, on est rendu là.
J'ai l'impression d'être dans un épisode des Jetsons.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Puis on comprend que c'est pas la technologie qui freinait ça dans les dernières années. La technologie est là. On a tous compris ça. Plus une question de principe. Donc, c'est le Barbie sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy qui utilise un robot qui transporte des assiettes parce que le propriétaire dit, écoute, j'ai pas de main-d'œuvre, j'ai pas d'autre solution. Donc, il a dépensé 22 000 $ pour s'acheter un robot qui s'appelle Bellabot ou Bellabo, je sais pas trop, là, Bellabot, qui mesure 1,30 m avec, on dit qu'il a des allures félines. Et c'est ça. Ça a l'air qu'il est bien apprécié par ses collègues du Barbie's Resto Barbie.
Mais je trouve que c'est une bonne idée.
Moi, s'il chante la chanson, par exemple. Penses-tu qu'il Barbie's peut chanter, le, ouais, si tu lui demandes?
Quelle ambiance. Ouais. Il faudrait que la candidate du Bloc soit là pour chanter avec nous. Écoute, moi, je lui lève mon chapeau. Bravo, trouve des solutions. Je suis curieux. 25 de 2-6, c'est certain qu'il y a des auditeurs qui l'ont... qui l'ont fréquenté, Bellabot, c'est comment ça se passe?
Es-tu sympathique?
Tu sais, mettons, est-ce qu'il vient desservir ton assiette, puis il se parque à côté de toi, puis tu sens, tu sais, mettons, il te reste deux bouchées à prendre. T'as comme de la pression pour déposer ton assiette. Est-ce qu'il faut que tu ça, te serves toi-même? Dans le fond, il arrive, puis les assiettes sont sur son corps, sur son body. Puis là, tu prends ton assiette. Je suis curieux de savoir comment ça marche.
Puis tu sais, moi, je suis d'accord avec le propriétaire. Je suis pas allé, là, mais effectivement, ça pourrait être intéressant peut-être de parler. S'il y a un auditeur qui l'a essayé, 670-9330 ou encore 25-226 par texto, mais ce serait peut-être le fun de parler avec quelqu'un directement au téléphone. 418-670-9330, si jamais ça vous tente, sinon texto 25-226. Mais moi, je suis d'accord avec le propriétaire qui dit ça sera jamais tout le temps comme ça, là. Moi, personnellement, j'ai pas d'intérêt à aller dans un restaurant où ce serait un robot là, qui me sert. Moi, ce que j'aime, c'est l'expérience. J'aime ça jaser avec les serveurs. J'aime ça jaser avec le gérant, la gérante et le propriétaire. Je veux rien savoir d'un restaurant où il y aurait juste des robots.
Là. Le service...
C'est ça que ça m'intéresse pas.
Écoute, là. Je lance un chiffre de même, là, mais juste pour saisir l'idée. Là. Moi, le service, je pense, peut améliorer mon expérience de 20% dans un restaurant.
Ben,
c'est-à-dire que je peux avoir un restaurant qui, au niveau culinaire, va être bon, avec un excellent service... que je vois plus apprécier qu'un restaurant où la nourriture va être exceptionnelle, mais avec un service froid.
Ah non, non,
va
être, j'ai pas d'intérêt moi non
ça
plus.
Ça fait partie de l'expérience.
Non, non, non. Il y aura pas de robot 47 ce soir. On va se poser au 47 ce
oui,
soir.
Oui! Non,
avec
non,
des
non,
auditeurs.
Non, 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 non du foie gras, par exemple.
Oh, oui, c'est ça. Pas de robot.
Il va avoir du foie gras.
Mais c'est ça. Ça va un peu dans la même. Je sais qu'il y a une photo qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est un McDo. Ah, c'est où? C'est dans les Laurentides. Je me souviens plus de la ville, dans les Laurentides. Il offre 1 000 $ à l'embauche dans un McDo. Puis il y a des gens qui sont surpris de ça. Regardez ça, moi, je suis zéro surpris, là. Je veux dire, c'est parce que c'est affiché à l'extérieur, puis les gens disent, ah, ouais, 1 000 $ à l'embauche. Ouais, mais il n'y a plus d'employés. Ils n'en ont pas. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'offrir des salaires plus intéressants puis d'offrir des bonnets de signature de 1 000 $ chez McDonald's. On est pas mal dans cette situation-là. On est rendu là. OK, il est 1h30 ou presque 25-226 pour nous joindre. Vous écoutez Trudeau Landry.